Alors, bienvenue au Satis, bienvenue à cette cycle de conférences audio. Mon nom est Gisèle Clark, je suis rédactrice en chef du magazine Réalisation et puis organisatrice des rencontres de la création sonore. Donc le Satis m'a demandé de mettre du contenu audio dans ce salon, ce dont je leur suis vraiment reconnaissante parce que c'est vrai qu'on est un petit peu délaissé, disons. Donc voilà, j'espère que ce Satis nouvelle mouture vous plaira, le lieu, la manière dont c'est fait. Les conférences sont toutes enregistrées par nos amis d'Audio People, qui est une association qui milite donc pour la qualité sonore et pour le maintien de la mémoire, donc qui enregistre énormément de conférences. Elles seront mises ensuite sur le site d'Audio People et relayées éventuellement via le site du Satis. Donc le problème des niveaux sonores en publicité, vous avez vu que même les médias en parlent beaucoup maintenant, donc puisque cette fameuse je n'ose pas dire norme mais de recommandation, tu me diras si je dis si je dis des bêtises, cette fameuse recommandation va maintenant circuler, va être mise en pratique à partir de l'année prochaine. Alors sur ce plateau nous avons donc Miguel Adlise qui avec la CST et un groupe de travail a donc participé à l'élaboration de ces recommandations. Nous avons un représentant de studio qui est donc Grégoire Gallian de Studio Schmutz qui lui réalise des clips vidéo, donc bande son pour la, voilà, pardon, excuse-moi, qui lui est confronté avec la clientèle en fait. Hein, et puis c'est un petit peu la même chose pour toi Christophe, qui est Christophe Scherrer de France Télévisions Publicité, qui a un très très bel auditorium, si je me rappelle bien, dans les locaux de la maison, et qui aussi est confronté à ce problème des niveaux sonores. Donc comment ça va se mettre en pratique, comment les gens vont l'accepter, est-ce que ça va prendre du temps pour se mettre en place, toutes ces questions-là, je pense que mon collaborateur Terry Nelson, qui travaille avec moi à la réalisation et qui est aussi un monsieur du son multicanal, va agir en tant que modérateur de cette conférence. Voilà, je vous souhaite un bon petit moment et puis merci à vous.
Bonjour tout le monde et puis nous sommes partis pour une séance intensive sur ce qu'on appelle en anglais le loudness. Avant de passer la parole tout de suite à Miguel, je vais juste faire un petit sondage. Quel est le bouton le plus utilisé sur les télécommandes pour les télévisions? Et non, c'est le mute. Donc, ça veut dire on coupe le son. On pourrait dire que nos amis, les agences de publicité, auraient bien compris quelque chose, mais il paraît que ce n'est pas le cas. Donc, plus fort le mien, plus fort le mien. Et puis, si la majorité des téléspectateurs profitent pour faire mute, donc on coupe le son, on fait le café, on va les gamins au lit. Bref, ça veut dire qu'il y a un vrai problème qui est dans tous les grands pays et les institutions de broadcast. Et ici en France, je suis très content de savoir. Donc, je passe la parole tout de suite à Miguel Adelise de Télétota, qui est aussi conseiller le CST sur ce problème.
Bonjour, on a rédigé la recommandation CST-RT17 qui a été signée au courant du mois de juillet dernier par tous les acteurs, toutes les chaînes de la TNT. Et donc, en fait, cette recommandation sera appliquée à tous les médias qui diffusent de la télévision en France pour une application au 1er janvier 2012 pour la publicité. Donc, pour vous donner un petit historique rapide de la chose, jusqu'à maintenant, on avait pour habitude de diffuser des signaux sonores qui étaient définis par leur niveau de crête maximum, qui définissait la bande passante d'une chaîne de télévision sur les émetteurs. Et donc, en fait, on avait à peu près ce type de travail, c'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait aligner les niveaux de crête d'un signal, mais absolument pas le niveau d'énergie qu'il représentait. C'est ça qui générait, en fait, les différences de niveau qu'on pouvait percevoir entre les signaux, et entre les programmes et entre les chaînes. Donc, cette recommandation sera appliquée à toutes les chaînes, à tous les programmes d'une chaîne et à toutes les chaînes, c'est-à-dire que du coup, on pourrait retrouver entre les chaînes et entre les programmes d'une même chaîne les mêmes niveaux sonores. Donc, pour éviter ce genre de situation et qu'on puisse en fait diffuser des signaux qui soient au même niveau d'énergie, il faut définir d'abord le niveau d'énergie qu'on doit appliquer. Ça a été défini dans cette recommandation qui s'appuie sur des recommandations internationales de l'EBU, qui passe en recommandation internationale au niveau de l'ITU, qui s'appuie sur la recommandation R128 de l'EBU. Donc je vous passe un petit peu le détail très technique de la chose. On va travailler dans une unité qui s'appelle le LUFS, qui veut dire simplement Loudness Unit, comme vue maître voulait dire Volume Unit. Donc Loudness Unit relative to a full scale, donc affiché et mesuré en relation à une échelle full scale. Donc ce niveau est fixé à moins 23 LUFS. Donc en gros, les mix publicité devront avoir ce niveau maximum. Donc un niveau d'énergie qui sera mesuré sur la totalité du programme utile devra atteindre ce niveau de moins 23 LUFS maximum. Pourquoi maximum ? Parce qu'on peut tout à fait avoir affaire à des publicités plus ou moins silencieuses et qu'on doit pouvoir autoriser. Donc on ne peut pas donner une valeur basse de niveau. On sera systématiquement obligé d'avoir une valeur maximum uniquement. Cette valeur de moins 23 LUFS, elle n'est pas très représentative de ce qui se passe de façon très ponctuelle à l'intérieur d'un signal. Donc on peut effectivement avoir des crêtes qui montent au-delà de ce moins 23 LUFS à l'intérieur de signal. Et donc pour garantir le fait qu'on n'aura pas de niveau trop agressif, on définit en short term, c'est-à-dire une valeur mesurée quasiment instantanément, mais en réalité elle est sur 3 secondes pour pouvoir bien mesurer une énergie, elle sera limitée à 20 LUFS maxi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un programme, on aura la possibilité d'avoir des crêtes maximum qui iront à 3 dB au-dessus de la valeur moyenne de la totalité du programme. Donc la différenciation entre un programme long et un programme court, parce qu'ils ne peuvent pas être mesurés de la même façon, elle se fait sur une durée qui est égale à 2 minutes. Donc tous les programmes inférieurs à 2 minutes sont considérés comme étant des programmes courts et supérieurs à 2 minutes comme des programmes longs. Là, on se concentre uniquement sur ce qui se passe sur les programmes courts. Du fait de la technologie qui est utilisée, on ne peut pas mesurer exactement de la même façon les deux types de programmes. Et c'est pour ça que pour la publicité, on a une valeur cible qui est le moins 23 maximum et une valeur en short terme qui sera à moins 20 LUFS maximum. Au-delà de tout ça, on a aussi des valeurs électriques à mesurer. Donc on peut avoir des limites électriques techniques à respecter, qui ne seront plus moins 9, comme on connaît tous, on diffusera plus à moins 9, puisqu'on n'aura plus à partir du 30 novembre prochain de diffusion analogique en France. Donc on n'aura plus cette limite du moins 9 dB full scale. Et donc on pourra atteindre le moins 3 dB entropique. J'insiste bien sur cette valeur, cette notion de entropique, parce que c'est assez flou. Il y a deux types de mesures en full scale, les mesures sample peak qui déterminent la tension d'un échantillon et les valeurs en true peak qui viennent suréchantillonner 4 fois et donner la valeur de l'échantillon supérieur à l'intérieur de ce suréchantillonnage 4 fois. Pourquoi ? C'est pour essayer de se rapprocher du signal électrique analogique qui pourrait en sortir, mais c'est surtout pour éviter qu'on ait des erreurs numériques à l'intérieur des chipsets, à l'intérieur des processeurs. Donc voilà, on sera limité sur cette valeur électrique à moins 3 dB tropique. Et donc, au final, ce que ça va donner, c'est plutôt ce type de schéma qu'on voit en bas. C'est-à-dire qu'on ne limite plus les signaux de par leur niveau de crête ici, mais seulement par leur niveau d'énergie. En fait, on vient aligner les centres de gravité des signaux. En fait, le but du jeu, c'est de pouvoir faire ça afin de pouvoir diffuser des programmes qui soient au même niveau tous entre eux et entre les chaînes. Donc voilà, c'est ce que ce document définit. Il est disponible sur les sites de la FICAM, de la CST, du HD Forum en libre accès. Et ce document a été aussi publié au journal officiel via un décret du CSA. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'émane pas ni des chaînes, ni des prestataires. C'est l'État qui demande à ce que les niveaux soient alignés à un niveau qui est fixé, qu'on ait les mêmes niveaux partout. On a prévu une application là-dessus au 1er janvier 2012, c'est-à-dire que tout ce qui va être livré aux chaînes au 1er janvier 2012 devra répondre à cette recommandation. Donc on va peut-être en parler avec M. Scherer de France Télévisions Publicité, qui va peut-être nous présenter son document à lui.
Sujet d'importance qui nous concerne tous et qui va, on va dire, bouleverser l'acoustique d'écoute de tous les téléspectateurs. Le niveau de compression va donc disparaître, puisque aujourd'hui la dynamique est à quasiment à zéro. Il n'y a plus de dynamique dans les spots de pub. Et donc, par cette norme, tout ça va revenir. Alors, simplement pour vous donner un ordre d'idée de ce que nous représentons, la régie publicitaire de France Télévisions Publicité, c'est à peu près 70 points de diffusion différents, 70 chaînes différentes. Ce sont toutes les chaînes nationales, ce sont toutes les chaînes régionales, ce sont toutes les chaînes des DOM et des TOM, et ce sont toutes les chaînes du câble et du satellite que vous voyez là. Donc la recommandation ne s'applique normalement qu'aux chaînes de la TNT, mais à partir du moment où on démarre dans ce processus-là, on ne va pas proposer aux annonceurs de nous fournir, ou aux sociétés de production, de nous fournir un spot compressé pour les chaînes ne respectant pas cette norme, et un spot non compressé, enfin respectant cette nouvelle norme, pour toutes les autres chaînes que vous avez ici sous les yeux. Donc le 1er janvier, ça démarre d'une manière drastique sur l'ensemble du spectre sonore de la publicité sur toutes ces chaînes-là. TF1, M6 et les autres s'alignent avec nous sur la même norme, parce qu'on ne souhaitait pas tous ensemble qu'il y en a un qui démarre et que l'autre ne suive pas. Ça aurait créé des problèmes commerciaux considérables. Bien sûr, je vous ai ici mis l'offre digitale. Il faut savoir qu'à partir du début de l'année prochaine, tout ce qui est en pré-roll sur des supports de catch-up ou de VOD sont assujettis aussi aux normes de l'ARPP. Peu d'entre vous le savent sans doute, mais un spot de pub en pré-roll sera obligé d'avoir un numéro d'ARPP à partir du début de l'année prochaine. C'est une norme qui existe déjà depuis un an, qui n'était pas appliquée, et l'ARPP va nous l'imposer d'une manière assez forte pour le 1er janvier. Donc bien évidemment, le niveau sonore des publicités sur tous les supports sera le même. On ne va pas recompresser pour basculer sur tous ces supports. C'est le petit aparté que je voulais vous faire. Bien sûr, j'ai repris là le document que vous avez vu à l'instant. J'y ai enlevé les deux courbes qui ne nous concernent pas, qui sont des courbes qui concernent uniquement les programmes longs supérieurs à 2 minutes. Donc ce qui est important de noter là-dedans et qui vient en partie d'être dit, c'est qu'il y a deux règles qui nous sont imposées. C'est la valeur moyenne du loudness, moins 23 dB, LUFS, pardon, à partir de l'année début 2013. Par contre, ça démarrera tout de suite avec moins 22 LUFS sur l'année 2012. Il y a une petite variante de plus ou moins d'un dB.
Oui, alors,
d'un LUFS, il faut que je m'y fasse.
Alors là-dessus, je voudrais juste préciser que cette variante ne concerne que l'accord qu'a le CSA avec les chaînes. Mais il faut juste savoir que nous, ce qu'on doit livrer aux chaînes, c'est du moins 23 LUFS. Pourquoi ?
Parce... Oui, je vais y aller.
Oui, oui, justement. Ok, bien alors sûr. Je te laisse.
Je vais y aller, bien sûr. Donc, il est évident qu'on ne va pas demander, parce que le passage du stock qu'on a actuellement à la nouvelle norme va déjà être d'une violence totale. Je vais vous en parler dans 2 minutes. On ne va pas accepter pendant un an de se mettre à une norme avec un petit LUFS d'écart et juste après l'année 2013 de vous redemander de recommencer, de vous remettre avec ce moins 1 et l'UFS de différence. Donc les deux premières sont importantes, donc la valeur moyenne, et la deuxième, le short term, ça c'est imposé, c'est non négociable, ça sera contrôlé et ça sera sanctionné. Et donc je peux vous dire que Michel Boyan nous a prévenus, il a dit on a mis plus de 10 ans à mettre au point cette norme, je n'aurai aucune tendresse pour tout dépassement. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que début de l'année, les contrôles soient immédiats, en plus ils sont possibles. Donc ça va aller vite dans le bon sens. Après, le pic et l'écart entre la valeur la plus forte et la moins forte du spot reste quelque chose qui est souhaité et qu'on va tous s'appliquer à utiliser, surtout celle qui concerne le loudness range, parce que plus il est étroit et plus vous êtes proche du moins 23 dBFS LUFS, et moins vous profitez du short term, et donc naturellement toutes les sociétés de production vont vouloir en profiter de cet écart de low range pour arriver jusqu'à peut-être 20 LUFS d'écart. Alors voilà la situation actuelle, on va pas s'étaler, hein. Ça c'est ce qu'on reçoit, ça c'est vers quoi on va. Aujourd'hui on a un stock chez nous, France Télévisions Publicité, de 216 000 films publicitaires qui ne sont pas dans cette norme. Donc on a obtenu du CSA de les mettre à la norme sans avis client. Je redis bien, sans avis client. C'est-à-dire que tout annonceur qui rebasculera un ancien film de 2011 vers 2012 se verra réaligné sur ces deux paramètres que nous venons d'exprimer, c'est-à-dire le moins 23 à l'UFS en valeur moyenne. Et évidemment, s'il m'a donné un spot non compressé, on l'alignera sur la partie short term de 3 secondes à moins 20, si mes souvenirs sont bons. Le problème se positionnera donc comme ça. On recevra des films à la nouvelle norme qui auront une dynamique supérieure. Et juste après, un film qui aura été réaligné se retrouvera enfoncé comme ça. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un annonceur qui s'entende clairement et un annonceur qui se retrouve enfoncé en disant « moi, on ne m'entend plus » ou « on m'entend moins ».
C'est ce qu'il dit déjà.
C'est ce qu'il dit déjà.
C'est vrai.
Maintenant, libre à lui de relivrer un spot dans la nouvelle norme. C'est ce qu'on espère de tous. C'est vrai qu'un grand nombre de spots de publicité, de PME, de régions ou d'entreprises ayant investi fort durant l'année 2011 ne va pas forcément refaire une prod sonore pour s'adapter à la nouvelle norme. Mais ça viendra dans les 6 à 8 mois. L'expérience du 16/9 et du 4 tiers a duré en fait 3 mois. Tout le monde disait « je ne vais pas refaire mon spot de 4 tiers en 16/9 ». À partir du moment où on s'est donné l'autorisation de cropper dans les images et de tailler dedans, ils sont tous venus à la norme à toute vitesse en l'espace de 3 mois. Alors le son, on s'attend bien à ce que beaucoup de gens réagissent assez vite pour s'adapter à cette nouvelle norme. Voilà le calendrier qui nous a été fourni il y a moins d'un mois, définitif par le CSA. C'est la ligne orange qui nous intéresse, celle qui concerne le message publicitaire, avec ces deux étapes dont je vous ai parlé et ces deux chiffres inamovibles qui sont le short term en S et la valeur moyenne en I. Alors, chez nous, en termes de vérification, ça change toute la manière de faire. Le technicien qui surveillait des oscilloscopes ou ce qui surveillait des vue-mètres ou des Duroof ou différents autres équipements vidéothèques et autres avait une visibilité temps réel de l'avancée de son spot. Il voyait en temps réel si le spot dépassait ou s'il ne dépassait pas. Ça, c'est terminé. On ne peut absolument plus rien voir en temps réel ou sinon des choses inintéressantes. C'est à la fin du spot que l'on sait s'il respecte ces deux variables. Et ça, c'est un grand changement dans la manière de vérifier. C'est un grand changement dans la manière de produire. C'est qu'en temps réel, vous ne pouvez pas agir sur la création que vous êtes en train de faire. Vous le ferez à la lecture de ces deux variables à la fin des 30 secondes ou 20 secondes pour savoir si vous êtes rentré dans la boucle. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ici, mais qui fait partie de la norme, qui est la non-prise en compte de tous les sons qui sont proches des silences. C'est-à-dire qu'en fait, l'astuce pourrait consister à, comme nous sommes des latins et que nous allons chercher à glisser à travers cette norme, l'astuce aurait été d'utiliser les silences pour baisser sa valeur moyenne et profiter pendant un moment plus court d'une impact sonore plus forte. En fait, en dessous de moins 33, ils ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que vous prenez moins 23 LUFS, vous augmentez ça, vous reculez en son de 10 LUFS, on arrive à moins 33, et là, à partir de là, on n'écoute plus, ça ne rentre plus dans le calcul, ça n'est plus mesuré. C'est quand même extrêmement contraignant dans la production, c'est une manière de faire nouvelle, difficile, pas facile, mais sur laquelle on a la possibilité, nous, d'agir. Alors le dernier point, c'est bien évidemment un annonceur qui nous donnera un spot qui n'est pas à la norme en 2012, un nouveau spot, se verra prévenu et devra nous fournir une acceptation pour que nous le remettions à la norme. Il existe des outils qui, à partir d'un spot non compressé ou même compressé, peut le remettre drastiquement à la norme. C'est bien moins joli qu'un mixage, mais ça passera. Et on sera amené à le faire, soyez-en certains, parce que la sanction sera extrêmement forte de la part du CSA. Voilà. La première chose dont on n'a pas parlé, c'est que le 19 décembre, on se met tous à niveau pour le zapping entre les chaînes. Tout le monde doit produire un moins 23 LUFS à l'antenne sur toutes les chaînes de la TNT à partir du 19. Plus précisément, à partir du 14, les tests commencent en réel sur les antennes de la TNT.
Je voudrais préciser quelques petites choses parce qu'effectivement, le CSA a diffusé un calendrier qui concerne les chaînes. Comme M. Scherrer le disait à l'instant, il est inimaginable d'envoyer à la chaîne un mixage à moins 22 pour l'instant. Parce que de toute façon, comme il l'a bien dit, sans avis client, il sera réaligné à moins 23. La chaîne ne peut pas prendre le risque de se faire remettre sur les rails par le CSA pour un spot qui ne vient pas de chez lui. Donc il les réalignera systématiquement. Et ça, ça a été négocié avec les agences, donc la ACC, l'UDA, le SNPTV et la RPP. Tous ces gens-là ont été consultés et d'ailleurs nous ont mandatés pour écrire ce document. Donc ils nous ont demandé de le faire et ça a été, il y a eu des réunions d'information auprès des producteurs son, je ne sais pas si tu étais là. Les annonceurs aussi ont été informés de la chose. Le 22, il y a une réunion avec les mixeurs, le 22 novembre prochain. Donc voilà, tout le monde doit être mis au courant de la chose. Au 1er janvier, ce qui doit être livré aux chaînes, c'est du moins 23. Après, ce qui se passe entre la chaîne et le CSA, ça les concerne eux parce qu'ils s'entendent comme ça pour des raisons qui leur appartiennent.
Donc sur l'exemple que vous avez ici, on voit que ce spot passerait très bien. On voit qu'il est compressé parce que son loudness range est extrêmement faible. On espère que petit à petit, on va avoir quelque chose de beaucoup plus écarté que ça. Il n'est que de 4,9, on nous conseille 5, on espère 10, voire plus. Moins 23 LUFS en valeur moyenne, il est respecté. Et moins 21,8 en valeur short term, il est respecté. Donc ce spot passera sans aucun problème à l'antenne. Voilà, la valeur tropic est en haut, elle ne s'est pas allumée durant tout le spot. Donc elle ne reste pas en rouge. Voilà typiquement un exemple d'outil qui est à la norme. Il n'y en a pas beaucoup qui sont à la norme à ce jour. Beaucoup sortiront seulement au NAB. Les grands fabricants de hard ne sortent qu'au NAB et quelques fabricants de soft sortent actuellement. Il y en a 3-4 sur le marché disponibles qui respectent 100% l'adaptation de l'EBU au CSA.
Alors, juste une autre précision, c'est que l'EBU a prévu les choses aussi pour le mixeur qui est devant sa console. C'est-à-dire qu'ils ont prévu dans cette recommandation R128 des systèmes d'affichage qui permettent au mixeur de visualiser son niveau de loudness sur un bar graph, un peu à la manière vue maître, quoi. Donc on sera pas vraiment dépaysé, pour peu qu'on choisisse le bon outil. On ne sera pas franchement dépaysé lorsqu'on sera en face d'un loudness meter, en fait.
Donc, pour tous ceux qui s'intéressent, donc évidemment, en plus des documents de CST et de CSA, je vous recommande d'aller sur le site de ABU. Et donc, si vous faites une recherche Google, vous faites le groupe P-Loud, donc P-L-O-U-D. Alors là, vous auriez toutes les recommandations des travaux de groupe P-Loud, qui est un groupement des grands professionnels de broadcast dans l'Europe, avec Florian Camara, donc un ami qu'on connaît bien. Donc là, vous aurez les recommandations pour les normes, vous aurez les recommandations pour les maîtres ou l'affichage, pour les techniques de production, etc., etc. Alors justement, pour la production, c'est peut-être bien d'avoir maintenant l'avis de Grégoire, parce que lui, il est dans les tranchées en première ligne, je pense.
Disons, moi, mon point de vue, c'est la demande de mon client. Mon client, forcément, il veut que ce soit le plus fort possible. C'est le seul truc qui l'intéresse. Et à partir du moment où on essaie d'aligner tout le monde, même aujourd'hui, même en étant sur une norme purement électrique, j'ai des coups de fil tout le temps de « je m'entends pas, les autres, ils sont plus forts que moi ». C'est leur seule réflexion, c'est d'avoir leur marque plus fort que les autres. À partir de là, qu'est-ce qu'on a fait pour ceux qui sont déjà dans ce métier-là, mais je le répète pour ceux qui ne le sont pas, on s'est mis à mixer très très aigu. Comme de toute façon, on est sur un niveau électrique, qu'on mette du grave ou de l'aigu, on s'en fout, l'aiguille réagit pareil. Donc on mixe hyper agressif, on mixe complètement dans le haut. Et en plus, comme nous, on peut se permettre de passer 8 heures, 12 heures pour mixer 30 secondes, là où un mixeur de flux ou de long passerait à fond la caisse, on peut se permettre d'être en permanence au taquet sur tous les niveaux et d'être très, très, très agressif dans notre mix. Donc au final, c'est ce qui donne l'effet d'être plus fort que les autres. Tant qu'on était sur une norme électrique, tout le monde au final avait la même, mais on donnait cette impression d'être plus fort. Donc aujourd'hui, le fait de nous aligner sur une norme qui va être une moyenne, j'ai déjà fait les tests, on va essayer de lutter malgré tout, mais c'est vrai que on risque, ne serait-ce que par habitude, de continuer à mixer assez agressif, donc de toujours donner l'impression qu'on est un petit peu fort. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue purement mécanique, ça aura plus le même effet qu'avant. J'ai fait déjà plein de tests, qu'on mixe un peu plus grave, qu'on mixe un peu plus aigu. on est de toute façon sur les mêmes résultantes de données. Mais il y aura certainement pendant encore un bon moment cette habitude, ne serait-ce que parce que voilà, on sait que derrière nous, notre pression, c'est celle des clients. Et quand tout à l'heure, on reparlait d'être retoqué sur les messages qui ne passeraient pas aux normes, la vraie pression, c'est nous qui la prenons, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a de l'achat d'espace, c'est évident qu'un client qui se fait retoquer son film, donc qui ne peut pas le diffuser, c'est vers nous qui se retourne. Donc de toute façon, on sera les premiers à appliquer le truc. Mais on l'appliquera toujours avec notre manière de travailler, c'est-à-dire que la plus forte compression, au bout du compte, qu'on peut créer, c'est le fait qu'on peut réussir à passer des heures sur le moindre détail en le mettant le plus fort possible en permanence.
Autant on peut mettre le moindre détail plus fort, chaque fois qu'on ajoutera quelque chose au signal, il ramènera de l'énergie. Alors on peut en faire ce qu'on veut au signal, tant qu'il ne dépasse pas moins 23, il sera bon.
Tout à fait, mais je veux dire, ça donnera toujours cet effet d'avoir quelque chose de très, très compact, très agressif. Je veux dire, un format long ne donnera jamais cet effet-là. C'est impossible.
Oui, parce qu'en fait, c'est lié au taux de compression, en fait. C'est lié au taux de compression. Là, on a une dynamique autorisée qui est bien plus ample que ce qu'on avait en analogique. Donc, on remarque, malheureusement, je ne peux pas vous faire écouter quelque chose là, mais on peut remarquer qu'en fait, plus un mixage est dynamique, au final, c'est complètement l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que avant, plus un mixage était compressé, plus il s'entendait. Et au final, là, maintenant, moins il sera compressé et plus il sera facile à entendre et plus il s'imposera par rapport à un signal compressé.
Je ne sais pas, on a fait toutes sortes de tests par rapport à ça et le résultat vraiment psychoacoustique, je ne te parle même pas de vu-mètre ou quoi que ce soit, c'est qu'on a pris nos anciens mix et au final, en les baissant à peu près autour de 4 dB, t'arrivais, t'étais dans les choux, sans avoir changé ton mix. Et le fait de rajouter de la dynamique, de détendre les compresseurs, de détendre les limiteurs un peu tout le monde, changeait pas grand-chose.
Ce qui se passe en réalité, c'est que pourquoi le mix plus dynamique est mieux perçu, c'est tout simplement parce qu'il a des crêtes qui montent plus haut, quoi. Il a des crêtes de façon très ponctuelle qui montent plus haut. Mais donc ça lui donne une précision que le mix compressé n'a pas.
Après, on est sur un truc tellement court où de toute façon on a des gens tellement tout poussés que t'as quasiment plus d'intermédiaires.
On se retrouve comme à gauche.
Voilà.
Ce qu'on a souhaité dans cette norme, c'est que tous les acteurs soient présents. L'Union des annonceurs est présent, a signé cette norme. Donc au départ, un annonceur pouvait se défausser d'exiger de sa société de production d'être extrêmement fort. Là, il est engagé dans cette histoire-là. Il ne peut pas dire « je veux que ce soit plus fort ». La charte est signée par l'Union des annonceurs.
Non, mais
et en l'occurrence, ils sont très impactés. Ouais, mais ils sont
parce
très
que,
au courant de ça.
Au final, ils arrivent toujours avec la même chose en disant « c'est pas tellement qu'ils veulent être plus forts que les autres, c'est qu'ils reviennent toujours en disant « mais moi, je suis moins fort que les autres ». C'est ça le vrai truc. C'est qu'ils reviennent toujours nous voir en disant « mais je comprends pas, je suis moins fort que tout le monde ».
C'est la difficulté du mixeur. En fait, les mixeurs vont devoir mixer tous très près du moins 23. Très compressé, c'est ce qui va se passer.
Oui, complètement.
Mais ça sera juste le choix de l'annonceur après.
Parce qu'effectivement, de toute façon, on a fait aussi les tests de baisser la musique, de mettre la voix off très très forte, etc. Enfin, le ratio en vaut pas la chandelle en tout cas.
Bonjour. Comment ça se passera pour les studios qui mixeront les spots publicitaires pour d'autres pays européens ou mondiaux? Est-ce qu'on va faire un mix pour le CSA en France et le mix comme d'hab pour les autres pays?
En fait, il se trouve que la norme qui a été mise au point par la France est plus souple que ce qui se trouve à l'extérieur. Donc, si on reçoit des films qui viennent de l'extérieur, ils passeront sans aucun problème. Vraisemblablement, les normes américaines qu'on a regardées sont en deçà et les normes européennes sont en deçà. Donc, on est beaucoup plus permissif à très faible LUFS près que les normes étrangères. Un film de Coca-Cola qui serait fait sur la norme américaine passera sans problème dans cette norme-là. Les outils existent d'ailleurs déjà et ça fait plus d'un an qu'ils ont mis en œuvre cette norme.
En Belgique et en Luxembourg, en Allemagne, c'est déjà appliqué?
Alors là, vous me posez une question.
Alors, pour l'instant, j'ai pas trop de nouvelles de ce qui se passe à l'extérieur, mais je sais que de toute façon...
Je peux vous dire non.
Alors, par exemple, en Hollande, ils s'y sont mis. Les Pays-Bas s'y sont mis. C'est une norme qui a été une recommandation R128 qui a été établie par l'EBU. L'EBU, c'est l'organisme qui gère les radiocommunications en Europe, qui a normalisé ça au niveau européen. Et c'est un vieux problème, hein, en fait. Donc, c'est un problème aussi de santé publique. Je sais qu'en Belgique, il y a eu des gros soucis pour des films. C'était pas des films publicitaires, mais il y a eu des très gros soucis dans une salle en Belgique où il y a eu quelqu'un qui a perdu un peu l'audition en sortant de la salle. Il y a eu des plaintes et là, ça se passe pas très bien. Donc là, on est en plein dans un problème de santé publique. Le premier texte de loi qui demande la régulation des niveaux en France date de 1986. Il y en a eu un autre en 90, un autre en 2010. Cette recommandation émane de non seulement des députés, mais aussi du ministère de l'écologie. C'est quelque chose qui tend à se généraliser. Aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que c'est carrément le président qui a établi, qui a émis un décret qui s'appelle le CALM Act, qui demande à ce que toutes les chaînes diffusent les spots de pub et les programmes longs au même niveau au 1er janvier 2012. Et eux, c'est sans dire comment, hein. C'est un papier qui est tombé sur la table et c'est comme ça à partir du 1er janvier 2012. Donc, c'est un peu plus sévère quand même là-bas.
L'Allemagne commence aussi. Donc, il y a le NDR qui est un des leaders phares dans le pays là-haut. Donc, on pourrait dire que presque toutes les chaînes allemandes vont suivre. Encore des questions ?
De toute façon, alors, en tant que prestataire, c'est assez rare que tu livres plusieurs mix pour le même film, selon les pays, je veux dire. La plupart du temps, on livre un mix et c'est au moment où ils font les bandes antennes que très souvent, ils réajustent s'il y a besoin de réajuster en fonction des différents territoires.
C'est peut-être pas le sujet de la conférence là, mais justement, au niveau du long, donc du supérieur à 2 minutes, est-ce qu'on pourrait en parler juste un petit peu pour voir les différences avec le court en termes de date justement de prévu pour alors, est-ce que c'est pareil c'est...
Alors, ça va être très rapide. Pour le long, c'est déjà en cours depuis un certain temps. Il n'y a pas de limitation en short terme officiel entre guillemets, c'est-à-dire qu'on conseille que les voies tiennent à plus ou moins 7 autour du... Donc en fait, c'est la ligne 2, la ligne verte en fait. On restera toujours à moins 23 LUFS. On suggère un guide de bonne pratique entre guillemets que le short terme évolue dans une fourchette de plus ou moins 7 autour du moins 23 au moment des voies. Dans la télévision, le signal important c'est les voies, donc on prend en compte que les voies. Le loudness range reste le même, 20 lu maxi, et le trou pic toujours à moins 3.
I'll actually try to have a question in English. Is it okay? Okay. Right. We've been working with loudness for a long time in the Nordics, and I have a question regarding the possibility to abuse the specification. There are a limit of the lower range at minus 33, but if you place, and I mean, most of the commercials and the producers will try to abuse the specifications. If you place the ambient mix on minus 23 and you use the full dynamics, for example, Xbox game with a lot of gunshots, have you tested the impact of a viewer for that case as well?
Yes. In France, we have one more information inside of the rules is the short term. The short term is limited in at minus 20 LUFS. If you've got a gunshot, you couldn't exceed minus 20 LUFS in short term.
But the short term is still over a period of 3 seconds.
Yeah.
And in the R128 recommendations, not the specification, but the recommendations, there's also a momentary term of 400 millisecond integration time. Why have you not chosen that? Do you see that it's covered by the 3 second integration interval?
It was a question. In France, we choose the short term because of the fact that view meter is always known by the mixers, and then view meters seems like a short term. Yeah, but you're right. We could choose the momentary. We could choose the momentary. What we could say is that if we note abuses
of the recommendation, we will recompose the recommendation. We will rewrite it. We will observe what is done, and then we will rewrite some points of the recommendation.
With the momentary, it was a problem with the lengths of different spots. When you have spots, 10-second spots, and you use momentary, you offer less solution than the commercial who will be 30 seconds. So it's why, it's one of the reasons we choose the short-term 3 seconds, because all this recommendation is the same for 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds. So momentary offers more for long spots than for short spots.
Donc, juste une question de l'outillage. Il y a plusieurs systèmes de mettre l'affichage. Donc, on peut utiliser le nom ou metering pour utiliser un terme en anglais. Donc, vous allez trouver souvent trois échelles. Donc, justement, le momentary loudness, donc le monsieur a parlé, donc ça, c'est vraiment les crêtes très, très courts. Le short-term loudness et the integrated loudness. Donc, pour les studios qui doivent s'équiper pour faire le monitoring, donc c'est ce genre d'outillage qu'il va falloir investir. J'ai juste une petite question là pour Grégoire et Miguel. Est-ce que les agences de publicité, est-ce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde dans les téléspectateurs qui sont vraiment agacés d'être agressé par les spots publicitaires qui sont trop forts ou beaucoup
sûrement,
trop agressifs.
Sûrement, mais c'est pas nos clients.
D'accord.
Effectivement, c'est tout le monde le sait et ils sont tous les premiers embêtés à arriver à la maison. Mais ils ont une autre contrainte, c'est que les annonceurs leur demandent de mixer plus fort parce que...
Non mais moins cyniquement, ça, c'est un jeu où tout le monde se court après puisque on sait très bien que pendant la pub, les gens se lèvent et vont faire autre chose. Donc du coup, on va faire tout ce qu'on peut pour que ce soit mixé pour encore plus fort, que même au fond de la cuisine, ils l'entendent quand même. Et c'est pour ça que je me suis même battu avec des clients en disant si tu fais un spot silencieux, ce qui n'est pas mon business, mais bon, si tu fais un spot silencieux, à la limite, ce sera plus vu parce que les gens vont juste se repointer, genre tiens, attends, la télé est pétée ou je sais pas quoi. Mais au final... on passe notre temps à courir après le spectateur qui s'en va dans sa cuisine.
Et si on faisait juste un mix qui l'empêche de partir ?
Et ben dans ce cas-là, faudrait faire du 5-1 par exemple. Ce serait plus beau et on serait de la télé en 5-1.
Ça ne pose aucun problème en diff.
Mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui diffuse comme ça.
Qui l'achète, qui achète le mix en 5-1. Ouais.
Une question pratique pour reprendre l'énumération des outils. Vous qui justement êtes dans cette comparaison et dans cette transition anciens outils, nouveaux outils, sans vouloir faire de mauvaise publicité évidemment, mais enfin je suis prestataire, ça me concerne aussi, je vais devoir me rééquiper. Vous avez une expérience sur certains types d'outils précis que vous pourriez donner c'est pas grave si ça fait un peu de publicité pour les marques, mais c'est important d'avoir un retour des gens qui sont déjà dans cette transition. Donc si vous pouviez faire un retour de votre pratique sur les outils que vous employez.
C'était Nugen qui paraissait le plus...
Alors, il y a plein d'outils. D'abord, il y a des softs complètement embarqués que vous téléchargez sur Internet et qui coûtent trois fois rien. Quand je dis trois fois rien, c'est des softs, celui que vous avez vu tout à l'heure, il coûte 500 € pour un PC. Donc il existe plein de softs qui font ça. Après, il faut s'y adapter dans sa manière de le gérer. Vous avez également des drivers qui se chargent dans les outils de montage que vous avez déjà, dans les Pro Tools et autres. Vous pouvez avoir des drivers qui s'intègrent complètement dans les outils techniques que vous utilisez. On ne va pas faire de recommandations sur tout ça parce que c'est extrêmement frais. Je reçois des versions la semaine prochaine, dans 15 jours, d'adaptation de tout ça. C'est extrêmement frais.
Je m'adressais volontairement à un praticien.
Ah, pardon.
Volontairement. Alors, parce que je sais très bien, je comprends votre position. Non, mais je comprends votre position. Alors, mais je m'adresse à quelqu'un qui est né dans le guidon par rapport à ça volontairement.
Alors juste un truc.
Personne ne veut laisser parler.
Faut savoir juste un truc, c'est qu'il y a plein d'outils différents et qui mesurent les mêmes choses, mais par contre, qui sont pas adaptés à toutes les situations.
Voilà, mais c'est ça que je. C'est
donc,
ce genre de choses que je.
Donc,
sur quoi je veux retour.
L'algorithme est assez simple à implémenter. En général, on retrouve les mêmes valeurs en fonction de l'outil qu'on utilise. Mais par contre, il va falloir adapter l'investissement à la situation. C'est-à-dire que
Un mixeur va pas utiliser les mêmes choses qu'en vérification. En vérification, ils ont pas simplement l'audio à vérifier, ils vérifient aussi l'image. Donc du coup, certains outils vont intégrer cette recommandation, mais ce sont des outils de vérification vidéo. Et dans un auditorium de mixage, on va sûrement pas mettre ce genre d'outils. Par contre, on pourra mettre du plugin ou alors des outils dédiés. Du plugin, c'est très bien, ça marche très bien, pas de problème, sauf que ça prend la place sur l'écran. Alors du coup, est-ce qu'on se retourne pas vers un outil dédié comme un bon vieux Bargraph, comme on le connaît tous, voilà. Donc il y a d'autres types d'outils.
Justement, Nugin est très bien parce que c'est déjà, il répond à toutes les normes et surtout, on sait bien qu'on va, on va pas mixer le nez dedans. On va faire notre mix comme d'habitude et puis à la fin, on analysera le truc et on réadaptera un petit peu en fonction de ça.
Voilà, il faut, faut se rendre compte aussi que, vous le verrez avec peut-être l'expérience, ces outils, de cette recommandation ramène un peu d'oreille dans les mixages. On n'est plus systématiquement les yeux sur le vu-mètre, sur le pic-mètre. On travaille un peu plus avec les oreilles et ça devient un peu plus agréable quand même.
Pour les gens qui aimeraient faire une expérience, donc là, je vais faire un tout petit pub. En fait, ce n'est pas vraiment. Donc, pour les gens qui aimeraient voir quelle est la différence avec le programme sur un pic-mètre, sur un volume-mètre, sur un ITU 1770, qui est à peu près le... Donc, ça, c'est la norme ITU, qui est la base de la R128, qui est la base de CST-CSA. Si vous allez chez www.orban, donc O-R-B-A-N.com, il y a un meter avec quatre normes. En fait, le quatrième norme, c'est celui qui est utilisé par la chaîne CBS, qui est une norme assez utilisée aux États-Unis. Donc, c'est pas forcément quelque chose que vous allez utiliser dans votre studio ou autre, mais c'est une manière économique de juste voir qu'est-ce que ça fait comme différence entre les différentes manières d'afficher. Encore quelques questions? Vous avez le meilleur de l'industrie française ici, alors profitez-en. Christophe, t'as pas encore un commentaire à faire? Tu es drôlement silencieux là.
Non, je pense que ça va être difficile pour tout le monde et que c'est très très proche, c'est dans moins de 2 mois. Équipez-vous, utilisez ces petits outils et ça le fera. Ça nous évitera de nous accrocher.
Oui, juste que on travaille tous dans le même sens, hein. On travaille tous pour les mêmes films, donc il n'y a aucune raison de s'accrocher. C'est vrai qu'il y aura une petite période un peu délicate parce qu'il faudra appréhender les outils, mais ça arrive très vite, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, dans la situation de Grégoire, c'est un peu plus délicat parce qu'effectivement, il a le client sur le dos à longueur de journée, donc ça peut être encore un paramètre différent. Mais dans la technique de travail, dans la technique de mix, ça viendra assez vite.
Bon, s'il n'y a pas encore de questions, donc il me reste à remercier chaleureusement notre panel et on vous souhaite une bonne continuation au Satis. Merci pour votre attention.
Autre radio, autre culture.